Pour tout reprendre et rassembler dans une approche simple, je dirais que le rien est finalement, ou d'abord, ce qui fait que le monde est monde. J'entends ici par monde, n'ayant guère non plus d'autres mots, tout ce qu'il y a. Le monde n'est monde que par le vide sur lequel nécessairement se profile il y a. Du jour au lendemain avec Roger Munier qui publie La dimension d'inconnu chez José Corti. La publication de ce nouveau livre, Roger Munier, dans la collection En lisant, en écrivant, chez Corti, me donne l'occasion de rappeler deux ou trois petites choses. Une vocation suspendue, d'abord, puisque à l'âge de 21 ans, vous entrez au noviciat des Jésuites. Vous y êtes resté 9 ans. Et vous l'avez quitté en 53, juste au moment où vous avez publié votre première traduction de la lettre sur l'humanisme de Heidegger. Un lien entre les deux événements?
Écoutez, c'est difficile à dire parce que ces choses sont de l'ordre du plus intime et elles se font parfois un peu sans nous. Mais enfin, une chose est sûre, c'est que je ne me sentais plus du tout à ma place, au milieu d'hommes que j'admirais beaucoup. Vis-à-vis desquels je me sentais très en deçà. Par ailleurs, peut-être que la rencontre avec Heidegger, fut une rencontre physique...
Oui, que vous avez connue en 1949, très bien, donc avec avant de quitter les Jésuites.
Oui. Étant encore dans la compagnie, je l'ai connue à ce moment-là. J'étais en Allemagne pour un voyage au titre des affaires culturelles pour apprendre l'allemand, et je me trouvais dans la région en Forêt-Noire, là où Heidegger vivait, mais je ne le savais pas. Et j'étais très copain avec un aumônier de la mission de France qui s'occupait des malades de l'armée, occupant un sanatorium à Saint-Glasien. Et un jour, il me dit, je ne sais pas si tu sais que Heidegger, on causait beaucoup, naturellement, il était très bien, ce type. J'ai déjà plusieurs fois fait un appel du pied, si j'ose dire, aux ondes, mais je n'ai jamais eu de d'écho. Je regrette parce que j'aimerais beaucoup le retrouver. Tu sais qu'Heidegger vit là. Je dis non, je ne sais pas. Veux-tu que je t'amène, etc. Alors, j'ai dit, mais oui, bien sûr, c'est à Teutnauberg, tout près. Et il prend sa jeep, il avait le grade de capitaine, puisqu'il était aumônier dans l'armée. Heidegger m'a dit après coup que quand il avait vu arriver cette voiture, cette jeep avec un officier français, il se demandait ce qui lui tombait dessus de nouveau. Et voilà, alors je me suis présenté, j'ai dit voilà, je vous connais depuis longtemps, vous imprégnez beaucoup ma réflexion. Tout s'est très bien passé de façon la plus simple et depuis ce moment-là, j'ai été évidemment très accroché par la pensée de Heidegger. Qui est tout à fait grandiose, n'est-ce pas, c'est sûr.
Mais de quoi parliez-vous avec Heidegger? Uniquement de choses sérieuses?
Ah ben oui, oui, on n'avait pas tellement de temps. Il acceptait dans la première fois que nous sommes rencontrés que je pose mes questions en français, il répondait en allemand. Mon allemand n'était pas suffisamment sûr pour engager une conversation, mais l'année suivante, ça marchait en allemand. Je l'interrogeais justement sur des points qui me paraissaient dignes d'être éclairés, au moins quant à moi, d'une réflexion qui à l'époque était très bouleversante dans la pensée française notamment, et qui troublait beaucoup, mais en même temps régénérait beaucoup de choses, n'est-ce pas ? et notamment, bien sûr, à propos de ce fameux être heideggerien, dont même aujourd'hui, personne ne sait exactement ce qu'il est, parce que précisément, il n'est rien. Et que j'aime, sur lequel j'aimais avoir quelques précisions, pour éviter des malentendus, parce qu'il y en avait. On faisait volontiers l'équivalence entre l'être de Heidegger et, disons, la transcendance. C'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça. J'ai mis longtemps à pénétrer dans tout ça. Voilà, c'était des questions comme ça.
Oui,
et alors après, nous nous sommes rencontrés, n'est-ce pas, dans les séminaires du Thor, parce que j'ai été un peu à l'origine de ces rencontres entre Char et Heidegger. Quand Heidegger est venu en France, en 1955, si ma mémoire est bonne, à Cerisy, pour une réunion des intellectuels français, des philosophes notamment, qui désiraient lui poser des questions, Jean Beaufray, que je connaissais, puisque j'avais traduit la lettre sur l'humanisme qui lui est adressée, m'a dit, Roger, j'ai posé à Heidegger la question, qui désirez-vous rencontrer? Alors comme une chose tout à fait évidente et qu'il a proférée de façon absolument immédiate, il a dit Braque et René Char. Alors Beaufray m'a dit, Braque, moi je peux l'emmener même à Varangéville, car je connais Braque, mais René Char, je n'ai pas beaucoup de rapport avec lui, est-ce que vous pourriez vous en charger? Et voilà, c'est par mon intermédiaire qu'a eu lieu cette première rencontre dont Beaufray a parlé dans un texte sous les marronniers, et qu'il a recueilli après, et qui a été à l'origine d'une relation importante, intense, et qui a culminé dans les fameux séminaires du Thor. Je dois dire d'ailleurs que le séminaire qui est dit de Zähringen, c'est-à-dire le séminaire qui s'est tenu en Allemagne, à Fribourg même, dans un faubourg de Fribourg, qui s'appelle Zähringen, devait avoir lieu chez moi au Liaumont, là où je vis maintenant. Et la santé d'Heidegger était déjà très fragile. Il n'a pas pu venir faire le voyage et accepter un changement de vie qu'on... Nous nous serions tous employés à lui rendre agréable, bien entendu, mais enfin, ça n'a pas eu lieu. Voilà. Alors, j'ai été très j'ai été sous le, si j'ose dire, sous le charme, dans tous les sens du mot, de cette pensée, mais de la grande pensée heideggerienne, bien sûr, n'est-ce pas ?
Et l'homme ne vous a pas charmé ?
Alors, l'homme, au début, quand je l'ai rencontré la première fois, j'ai été très surpris, car je m'attendais à voir un homme grand, un homme de bonne taille. Étant donné la nature de sa pensée, le côté vraiment très souverain, n'est-ce pas, de son expression et de son investigation elle-même, j'ai trouvé un homme petit. Il était, non seulement il n'était pas grand, mais il était plutôt petit. Il avait la taille de Sartre à peu près. Un homme extrêmement gentil, pas du tout professoral, pas du tout bonze. Pas du tout, je disais, Herr Professor, moi, laissez le Herr Professor, s'il vous plaît. Oui.
Mais il y avait peut-être d'autres sujets que des sujets philosophiques sur lesquels
vous
aviez envie de lui demander des éclaircissements.
Mais non, pas du tout, parce que je vous dirais qu'à cette époque-là, même pendant les séminaires du Thor, c'était une question qui n'était pas soulevée, celle du passé nazi de Heidegger. Elle reste encore avec des zones d'ombre. Moi, personnellement, je ne prends pas sa défense a priori, mais enfin, je veux quand même qu'on considère les choses. Et je pense que, très franchement, Heidegger, en tout cas dans sa pensée et la structure même de sa pensée, en dépit de ce que pensait Karl Löwit, il n'y avait rien qui l'encourage à être nazi dans les pointes extrêmes de cette stupide et folkish interprétation de l'histoire, de l'être, de tout ça. Il n'a jamais rien eu à voir avec ça. Et ses cours étaient surveillés de très près par des émissaires qui voyaient s'il ne disait pas quand même trop de bêtises. Il n'était pas du tout apprécié en tant que penseur par les nazis. Pas l'oublier. Il n'a pas été autorisé, par exemple, à assister au congrès Descartes je ne sais plus en quelle année, à Paris, alors qu'il était invité. Et quand, à la fin de la guerre, on a mobilisé tout ce qu'on pouvait encore mobiliser en Allemagne, il a été requis, en dépit de son âge, pour aller faire du terrassement le long du Rhin, n'est-ce pas ?
Donc c'est abusivement qu'on parle d'un engagement nazi de Heidegger ?
Non, ce n'est pas abusivement. C'est que Heidegger pensait, au début, il s'est trompé, n'est-ce pas ? Peut-être aurait-on pu espérer qu'il le dise plus clairement, qu'il s'était trompé. mais par excès.
Et qu'ils le disent à Paul Celan, par exemple, quand il l'a rencontré.
Ben oui, mais là, les avis sont très différents, parce que Paul Celan est sorti de cette rencontre à Teutoburg avec une figure assez illuminée, semble-t-il. Il n'était pas du tout catastrophé. Enfin, je ne peux pas vous en parler, parce que je n'y étais pas. Et Heidegger n'a jamais... Mais c'était un homme qui ne répondait à aucune polémique, n'est-ce pas ? À aucune attaque, aucune polémique. D'abord, son courrier, il arrivait, c'était Madame Heidegger, qui, moi, m'aimait bien. J'étais son fils, un peu. Elle m'aimait beaucoup, oui, oui. Et c'est elle qui, comme une secrétaire, examinait les choses, et tout ce qui était plus ou moins négatif, elle ne lui montrait jamais.
Elle faisait le filtrage.
Elle faisait le filtrage, comme une bonne secrétaire, quoi, oui, oui. Alors, il ne répondait pas aux polémiques, et... Il y a un côté muet qui, je dois dire, est une énigme pour moi. Je n'ai pas connu assez pour savoir, et personne aujourd'hui, me semble-t-il, n'est en mesure de le dire, pas même son fils, Heidegger, Hermann, avec lequel je continue d'être dans très bonne relation, qui était colonel dans l'armée nouvelle, Allemagne, etc., et quelqu'un tout à fait rigide et tout. Personne ne serait en mesure de dire exactement à quoi correspond ce mutisme, n'est-ce pas ? Mais il a cru, à un moment donné, au fond, comme Junger, plus ou moins, qu'une époque nouvelle s'ouvrait avec le nazisme. Mmh. Comme par ailleurs, il accordait, tout de même un peu abusivement, à mon avis, à la pensée allemande, à l'esprit allemand, un rôle très prépondérant. Il a pensé peut-être que quelque chose allait se dessiner là. Ce n'est pas un démocrate, hein. C'est indéniable. Ce n'est pas un démocrate, mais ce n'était pas non plus un nazi. Non, ça, très franchement, je crois qu'on ne peut pas raisonnablement le dire.
Vous n'êtes pas troublé par son mutisme ?
Eh bien, je le considère comme une énigme. J'aurais préféré qu'il dise, sans faire nécessairement une autocritique et une confession pathétique, n'est-ce pas, que tout ça était misérable. Mais en tout cas, il a quand même dit, je crois que c'est Hannah Arendt, « Ich schäme mich », j'ai honte. Tout ça n'est pas clair, n'est-ce pas, on ne peut pas se prononcer. En tout cas, sa pensée n'a absolument rien à voir avec la pensée dominante, qui n'était d'ailleurs pas une pensée, qui était tout à fait misérable, des penseurs ou philosophes ou pseudo-philosophes du nazisme. Mmh.
Laissons tomber Heidegger, alors, Roger Munier. Oui, oui. On ne va pas passer la nuit avec lui.
Mais non, bien sûr, bien sûr.
On le retrouvera peut-être tout à l'heure, d'ailleurs. Oui. Et revenons à votre parcours. Après avoir quitté l'ordre jésuite, vous avez mené une double vie dans les organisations professionnelles de la métallurgie d'un côté et de l'autre en tant qu'écrivain.
Oui, tout à fait, oui, oui. Et c'était une double vie réelle, c'est-à-dire qu'elle était partagée. J'avais à cette époque une très bonne santé qui me permettait de me lever très tôt le matin. Je me levais à 5 heures le matin, et de 5 à 7, 7h30, c'était l'heure à laquelle passaient les éboueurs, n'est-ce pas ? C'était la fin de la magie, et j'allais prendre mon bain, je me préparais pour être au bureau à 9 heures. Mmh. Voilà. Comme par ailleurs, je travaillais dans un organisme de la sidérurgie qui avait pour mission de diffuser une propagande de haut niveau en faveur de l'acier. Je n'ai rencontré là que des gens non seulement d'une très grande qualité, je tiens à le dire et le répéter, parfois plus grande même que ceux que je pouvais rencontrer dans le domaine littéraire parallèle, et qui ne prenaient pas du tout ombrage de cette double activité, au contraire, s'en sentaient honorés. Je n'ai pas connu les affres de Kafka, n'est-ce pas ? Plein d'une culpabilité qu'on peut comprendre, mais que je n'ai jamais moi éprouvé, en pensant que les heures qu'il donnait à sa création étaient autant de prises sur son travail. Ce n'était pas d'ailleurs l'esprit de l'époque, c'était les Glorieuses, vous savez, on était plus généreux, non ? Alors j'ai vécu ces deux vies-là. La vie professionnelle m'a d'ailleurs permis de faire de très nombreux voyages, de grands, grands voyages dans le monde, en Amérique latine, au Japon, à une époque où ce n'était pas devenu la tarte à la crème, un peu comme maintenant, dans des conditions de très grand confort et que je préparais soigneusement, dont je tirais le meilleur parti. Si j'allais à Lima, je savais qu'il faudrait que je ne manque pas d'aller au musée archéologique, etc. Quoi. Mmh. Alors j'ai été enrichi par cette vie seconde, qui était aussi la vie première, comme on voudra, les deux se nourrissant l'une de l'autre, parce que soumis le matin à un exercice de haute voltige intellectuelle, le seul a été écrit dans ces conditions-là, j'étais très en forme pour aborder les questions, tout de même de moindre envergure, mais d'une certaine envergure qui se posait dans ma vie de bureau.
Vous avez fait feu de tout bois, on peut
oui,
dire.
C'est ça. J'ai le sentiment d'avoir eu de la chance, d'avoir eu beaucoup de chance, parce que cette époque-là n'est plus pensable même aujourd'hui. Non, elle n'est plus pensable.
Dans votre parole, plusieurs paroles se côtoient, se croisent, mais vous êtes quand même l'homme d'une parole, j'imagine.
Ah oui, tout à fait, oui.
Il y a les paroles des mystiques, la parole des poètes aussi. Rimbaud, par exemple, auquel vous avez consacré un livre il n'y a pas très longtemps chez Corti, en 1993. L'ardente patience d'Arthur Rimbaud, mais aussi Mallarmé, Rilke et quelques autres. Il y a également la parole des philosophes, et pas seulement de Heidegger dont nous parlions tout à l'heure.
C'est vraiment. J'étais ouvert en même temps que cette imprégnation heideggerienne se dessinait avec une certaine fermeté. Je n'ai jamais, d'une part, été un herméneute de Heidegger. Lui-même me le reprochait un peu quand j'ai publié une nouvelle traduction de « Qu'est-ce que la métaphysique ?». Il m'a dit, je lui ai demandé une lettre préface, il m'a dit, mais pourquoi ne la faites-vous pas vous-même, vous ne faites jamais, vous restez à l'écart, etc. Ça ne m'intéressait pas énormément. Et d'autre part, c'était l'époque d'une découverte qui est d'ailleurs en liaison, non pas successive, mais en liaison avec deux voyages que j'ai fait au Japon, et où j'ai bien préparé, où j'ai découvert... Bien sûr, le zen dont tout le monde parlait, mais beaucoup plus profondément que le zen, le chan chinois et le taoïsme. Alors tout ça fait une ouverture d'esprit assez vaste, quand même assez grande.
Oui, et qu'on trouve dans un nombre de livres quand même assez large, quarantaine de titres.
Ben oui, maintenant ça commence à... Oui, c'est vrai. Ça, par moments, ça me rassérène un peu...
Mais des livres qui sont
souvent
publiés chez ce qu'on appelle de petits éditeurs.
Des petits éditeurs, parce que je n'ai jamais... Enfin, si, j'ai proposé des manuscrits, mais très rarement. La plupart du temps, c'était des gens qui me demandaient quelque chose. Et comme c'était de petits éditeurs, j'étais d'autant plus satisfait, d'autant plus content. Enfin, avec Gallimard, je n'ai pas toujours eu de chance, bien sûr, mais enfin, je suis un auteur de chez Gallimard en même temps. En même temps qu'un auteur des petits éditeurs. Oui.
Tous ces livres que vous avez publiés, Roger Munier, donc cette quarantaine de titres presque, auxquels il faudrait ajouter quelques traductions, ce sont des chemins qui ne mènent nulle part.
Si vous voulez, dans la mesure où nulle part est la région par excellence, où nulle part est précisément ce qui doit nous requérir. Avant tout, parce que nous allons quelque part, mais en général, nous faisons le chemin nous-mêmes, nous balisons l'étendue pour y parvenir, et souvent nous y parvenons dans les situations de relatif confort, et même s'il y a une autoroute, dans des situations particulièrement élégantes. Les chemins... qui mène quelque part, ne m'intéresse pas beaucoup. C'est dans la mesure où les chemins s'ouvrent sur une béance, sur une vacance, sur un vide, et même à la limite sur nulle part, que je crois que, personnellement, j'atteins un peu ma patrie, si vous voulez. C'est une patrie très inconfortable, pas du tout commode. C'est sûr, une fois la dernière cafétéria de l'autoroute abandonnée et qu'on s'avance tout seul dans l'étendue, c'est pas toujours facile, mais en même temps, c'est exaltant, non ?
Seul face à l'inconnu ?
Oui,
cette dimension d'inconnu ?
Exactement. Alors, cette dimension d'inconnu n'est pas nécessaire de la prendre, de la chercher dans un paysage et sur un horizon déterminé. Mais ben, il faut essayer, et c'est tout mon... D'une certaine manière, c'est la sollicitation la plus profonde en moi. Il faut la trouver dans l'existence la plus simple. Je dirais même que maintenant, maintenant où nous sommes l'un en face de l'autre en train de parler, il y a une dimension de cette démarche qui pourrait être mécanique, plus ou moins brillante, plus ou moins réussie, qui nous échappe, à vous comme à moi. Et les auditeurs qui m'écoutent à cette heure tardive ont une journée pénible derrière eux. Ils peuvent penser...
Une belle journée devant eux aussi.
Alors justement, ils peuvent penser que des choses auraient pu se passer, mais que ce soit pour demain, alors qu'ils ouvrent les yeux pour que demain, qui sera la même chose qu'aujourd'hui, cesse d'être banalement aujourd'hui. Mmh. Voilà. Autrement dit, il y a un nulle part dans le partout de nos vies qui peut être éprouvé constamment. Ou presque constamment.
Ce nouveau livre, Roger Meunier, La dimension d'inconnu, qui est publié chez José Corti, je le disais, dans la collection En lisant, en écrivant, se compose de deux parties. La première regroupe sept textes, et sept, j'ai toujours tendance à penser que c'est un excellent chiffre. Cinq ont été publiés déjà dans des revues comme Poésie ou la NRF, deux sont inédits, et puis cette seconde partie, elle est totalement inédite, c'est un texte d'une cinquantaine de pages intitulé « Du rien », un thème d'ailleurs qu'on peut retrouver en lisant bien dans la plupart des autres textes qui composent ce volume. Le mot « rien », on ne l'aime pas beaucoup, vous le constatez vous-même, peut-être fait-il peur, et la pensée en fait un usage souvent incertain. Mais vous, ce mot, vous l'aimez bien.
C'est vrai. Vous savez, le rien, c'est un mot, c'est un nom pour un manque que tout le monde ressent, que n'importe qui ressent, qui se déclare dans certaines occasions douloureuses ou exaltantes, d'ailleurs, de la vie, dans l'héroïsme autant que dans l'amour. Dans la vie, autant que dans la mort, il y a tout de même, nous avons l'impression que nous sommes affrontés à un manque. Quelque chose manque. Et ce quelque chose qui manque, moi, j'essaie de m'installer dedans, de faire le bon, si vous voulez, de ce côté-là. Et là, on découvre des choses indéniables. Le rien en question se manifeste à tout moment, ne fût-ce que par le fait qu'une chose finie est entourée de vide, que ce qui lui donne sa forme et son identité, c'est le vide alentour. Le vide qui cerne notre personne est aussi ce qui lui permet de se présenter. Ce rien qui se manifeste ainsi de façon allusive, dans une sorte d'esquive, j'essaie, si vous voulez, de le traquer dans les traces qu'il peut laisser. Et alors là, cela donne lieu à une approche du monde tout à fait autre. Autrement dit... Il ne faudrait pas dire qu'il s'agit là de nihilisme. en aucun sens. Et bien au contraire, cette épreuve, dans la mesure où on l'admet, où on l'accepte, valorise l'épreuve des choses qui sont, des choses réelles. On ne comprend jamais si bien un vase, même d'un simple potier de Haute-Provence, quand il est réussi, que quand on l'isole en lui-même et qu'on fait appel, en somme, qu'on convoque le vide sur lequel il se profile. Le monde apparaît d'une autre façon et l'épreuve qu'on peut en faire, et si elle est par moments de vertige, est en général plutôt extatique. Cela ne détourne pas le moins du monde. Cela le fait découvrir autrement. Alors qu'une vue qui voudrait masquer à tout point de vue et à tous égards le rien qui nous cerne, le manque qui nous hante, reviendrait tout simplement à positiver, comme on dit de nos jours, n'est-ce pas, positiver toute chose, c'est-à-dire nous enfermer dans le périmètre étroit de notre approche des choses. Rien n'est plus beau que le monde quand on a le sentiment qu'on ne le touche pas vraiment, n'est-ce pas ?
Mais pour percevoir ce rien, il faut une qualité qui a tendance à disparaître un peu aujourd'hui, qui s'appelle l'attention.
Absolument, absolument. C'est pourquoi le livre commence avec une petite méditation sur l'attention. Et vous savez ce que disait Simone Weil, l'attention absolument pure est prière. Alors elle faisait le bon carrément, elle, je n'irai pas jusqu'au mot prière, ni pour ne pas infléchir trop rapidement les choses dans un sens trop précis, mais l'attention absolument pure est extase, n'est-ce pas ? Petite, mais réelle extase.
Oui, parce que l'attention nous offre ce que vous appelez une montée en présence.
Voilà, c'est ça. L'attention permet à la chose de se lever elle-même, à partir d'elle-même, est de nous atteindre. Le risque est d'ailleurs, il me semble que je le dis dans le texte, c'est de nous absorber, à la limite. C'est de nous absorber, c'est de nous ravir à ce point, n'est-ce pas, que devant la rose, nous n'avons pas le sentiment d'être devant l'absente de tout bouquet, comme disait Mallarmé. Mais au contraire, devant une réalité de la rose absolument unique, puisqu'il n'y en a qu'une, il n'y en aura jamais que celle-là, dans un moment du temps qui est, lui, unique, et de nous ravir et de nous faire passer dans la rose, pour ainsi dire. Il faut faire attention, mais s'il y avait une épreuve, extatique dans ce qu'il m'est arrivé d'éprouver, c'est bien celle-là. C'est la perte. Comme si un vide, un élément étranger nous aspirait. Voilà. Mais à partir du monde, nous n'avons que le monde. Mais c'est une richesse que nous explorons extrêmement mal. C'est heureux d'ailleurs, parce que si nous l'explorions bien, il n'y aurait plus de littérature.
Nous n'avons que le monde et nous n'avons aussi que les mots pour le dire.
Exactement. Nous n'avons que les mots. Alors les mots eux-mêmes doivent être soumis à une sorte de torsion dans le genre. Pour arriver à l'écriture, au stade de l'écriture, les mots doivent être, pour ainsi dire, un peu gommés. Non pas biffés, mais choisis avec soin, de façon à serrer de près quelque chose qui est proprement indicible, mais sans l'éclat qui parfois est trop donné aux mots. Moi, il y a des poésies, des œuvres qui me glacent à ce niveau parce que je me sens subitement la proie des mots. Et que quelque chose qui aurait pu se produire ne se produit pas parce que les mots ont tout revendiqué pour eux, n'est-ce pas ? Oui. Alors on ne peut pas non plus parler là de minimaliste. C'est, c'est pas du tout un souci de langue simple et banale. Non, 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 pas du tout. C'est un souci d'approcher autant qu'il est possible. Et cela se fait d'ailleurs surtout, non pas dans des textes comme ces méditations du livre, mais dans les textes brefs que j'écris dans mes carnets.
Vous parliez de prière tout à l'heure, écrire comme forme de la prière.
C'est une chose qu'Emmanuel Levinas m'avait écrite. Je lui avais envoyé Le Moins du Monde, le petit livre qui est paru chez Gallimard. Et il m'a écrit une très belle lettre en me disant « Il ne m'échappe pas qu'il faut lire ces petits textes comme autant de prières. » Venant de Levinas, c'était très précieux.
Et vous parlez d'offrande aussi à propos des textes.
Ah oui, bien sûr, parce que, voilà, bon, à qui justement, on ne peut pas... Si on offre à quelqu'un, c'est très beau, mais si on offre à... de la façon la plus détachée, la plus décantée qui soit et la plus vide même qui soit, c'est vraiment l'offrande. L'offrande ne va à rien. Pour être vraiment pure, elle n'est qu'offrande. Elle n'est qu'offrande. Il y a une espèce d'immobilité de l'être, de la pensée et de l'écriture qui me fascine.
Il y a un texte sur l'écriture, d'ailleurs, dans ce livre « La dimension d'inconnu », Roger Minier. C'est un texte qui s'intitule tout simplement « Écriture » et qui est issu d'une conférence que vous avez prononcée en 90 au Collège international de philosophie à Paris, dans le cadre d'un séminaire animé par Roger Laporte sur le thème « L'écriture, l'exigence d'écrire ». Et dans ce texte, vous parlez plus volontiers d'attente que d'exigence à propos de l'écriture.
Oui, parce que je pense que cette attente est au dehors. Le monde, pour moi, les choses, les êtres, les situations les plus immédiates et les plus banales, à la limite, me donnent parfois l'impression d'attendre ce qui va les, oui, presque délivrer. Presque délivré. Dire quelque chose, dire une chose, atteindre un certain bonheur d'écriture dans ce domaine, c'est une véritable délivrance qui me paraît répondre à une espèce d'attente préalable de la chose elle-même, attente qui devient un appel même. La chose appelle. Si elle n'appelle pas, je ne suis jamais mis en mouvement personnellement. Je ne suis jamais mis en mouvement parce que de moi, tout seul, rien ne vient. Ah, c'est tout à fait ma conviction, en tout cas.
C'est un appel qui, lui, se passe volontiers de mots, qui est plutôt de l'ordre du ressenti, qui s'adresse au sens avant de parler à l'intelligence.
Ah oui, essentiellement. C'est même un appel qui n'est réellement appel que s'il est entendu. Donc très ténu. Très infime. Et c'est pourquoi il faut, dans l'écoute, être soi-même très effacé, très gommé, et n'employer pour y répondre que la plus grande économie verbale, la plus grande économie d'écriture. C'est un appel, mais ce n'est pas une requête, n'est-ce pas ? Ce n'est pas une sommation. Une espèce de plainte, peut-être, à la limite. Sommes-nous sûrs que nous sommes vraiment au monde comme il faudrait ? Nous la raisonnons. Nous lui faisons rendre tout ce qu'il peut rendre. Alors les poètes, heureusement, sont là, avec leurs louanges, avec leurs hommages. Mais les poètes ne sont que les poètes. Il faudrait que tous les gens, en eux-mêmes, aient vis-à-vis du monde une attitude qui ne soit un peu autre chose que purement possessive. De pure sommation, de pur raisonnement pour les richesses qu'on en tire, et même à la limite pour le plaisir qu'on peut en tirer. Moi, en face d'un vrai paysage, on éprouve un réel plaisir. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le paysage quand j'ai tourné le dos. Le paysage sans moi. Et hommage au paysage sans moi, C'est exactement l'idée pongienne, hein, l'idée de Ponge, ça. La chose sans moi. Et il, je crois, a réussi de grandes merveilles dans cette écoute tout autre.
Et vous pensez qu'il existe, le paysage, si vous avez le dos tourné ?
Eh bien, il n'est plus paysage, il n'est que soi. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le paysage, ce n'est pas la marque humaine, ce n'est pas ce qui vient du périmètre humain qui est notre emprise, tout à fait grandiose d'ailleurs, c'est sûr. Mais enfin, ce n'est qu'une emprise. Le monde a existé sans l'homme. Il continuera d'exister si un jour l'homme disparaissait. Qu'est-ce qui restera alors à ce moment-là? Il ne restera plus que les dieux, ou tout simplement le reste, l'innommé. Moi, ce qui me fascine et me requiert dès maintenant, c'est ce reste, cet innommé.
Vous pensez que ça arrivera un jour, cette disparition?
Ah, je n'en sais rien. Mais a priori, ce n'est pas impensable. Ce n'est pas désirable. Et c'est une chose vraiment terrible pour nous, les hommes. Mais en soi, ce n'est pas impensable.
L'appel restera sans écho, sans réponse?
Alors l'appel restera sans écho, parce que ce qui a la merveille de l'homme, c'est précisément d'entendre un certain appel et d'y apporter une réponse. Alors c'est une réponse qui est faite à un appel très incertain, donc c'est une réponse elle-même incertaine. Mais c'est comme ça qu'avec le temps et dans l'histoire se fait toute l'œuvre humaine. Si nous voyions vraiment le monde comme il est, vous croyez qu'il y aura encore de la littérature? Et si nous avions vraiment l'approche, ce serait plus que le silence, il n'y aurait plus que le silence. Et ce serait un silence pas bon, un silence glacé. Alors il vaut mieux, sur fond de ce mutisme des choses devant nous, essayer quand même de dire ce que nous avons à dire. Chacun de nous ne fait pas autre chose.
C'est-à-dire de répondre présent.
De répondre présent, exactement. C'est une excellente formule et j'y souscrirai entièrement. Ce qui fait que je dis souvent à des gens, nous avons un devoir, nous avons quelque chose à accomplir. Là-dessus, il ne faut pas transiger. Il faut avoir les deux pieds sur terre, il faut faire ce pourquoi on est fait, dans la mesure où on le peut, parce qu'il y a des contraintes et des contradictions. Mais enfin, non, être présent. L'homme ne fait rien d'autre, hein, vous savez. Il est au garde-à-vous, pour ainsi dire. Alors il prend garde, il se méfie dans son garde-à-vous. Mais en même temps, quel honneur! Quel honneur! Parce que devant lui passe qui? Un maître. Un maître.
C'est à la mémoire d'un poète que vous avez dédié la dimension d'inconnu.
Oui, de mon grand ami Roberto Juarros,
que vous avez traduit. Et l'un des textes lui est consacré.
Oui, c'est ça.
Un texte que vous avez intitulé « Tout commence ailleurs », c'est le commencement d'un poème, en fait.
Oui, c'est ça.
On a parlé d'une poésie métaphysique à propos de la poésie de Juarros. Et vous n'êtes pas du tout d'accord avec cette interprétation.
Mais non. Je pense que Juarros part du monde et interroge ce monde. Non en vertu de je ne sais quel a priori spéculatif ou de quel mouvement de l'esprit. Il se trouve que son approche est tout de même assez dialectique, n'est-ce pas? On lui a d'ailleurs par moments reproché ça. Faire basculer un énoncé dans son contraire. Mais on s'aperçoit d'une chose, que ce qui l'intéresse dans la plupart des cas, pour ne pas dire dans tous, c'est simplement d'aller faire une petite promenade dans cet envers du monde, qui est simplement le monde, qui n'est envers que pour nous, qui sommes face à l'endroit, qui créons l'endroit, qui le faisons apparaître, le faisons se lever dans sa gloire, mais en même temps dans son retrait, puisque ce n'est malgré tout qu'une œuvre humaine. Il n'y a rien de plus triste à certains moments que de penser que tout ce que nous faisons n'est qu'une œuvre d'homme. Ah, c'est exaltant, oui, mais en même temps c'est un peu triste, parce que ce n'est qu'œuvre d'homme.
Dites d'ailleurs, Roger Munier, que la leçon principale que nous laisse Juarros à travers son œuvre, c'est que le monde reste insondable et que notre présence en lui, selon le mot de Rimbaud que nous retrouvons, est à réinventer.
Oui, tout à fait. Est à réinventer, mais je ne sais pas si c'est possible dans le cadre de notre être humain, de notre essence d'homme.
Mais ce titre, La dimension d'inconnu, ça nous fait penser à Rimbaud aussi, parce que l'inconnu, oui, c'est un territoire qu'il a visité.
Bien
quand même.
Sûr, mais vous savez, c'est Bonnefoy qui disait, parlant d'une voix néante à travers la sienne, c'est un mot de Dives, ça, la voix VOX néante qui parle à travers la sienne. Et Rimbaud avait aussi voulait aussi écrire des études néantes. Je signale ça simplement parce que ça jette une sorte de pont entre une méditation sur le rien et la réalité poétique de très très haut niveau.
La dimension d'inconnu de Roger Munier est publiée chez José Corti. Du jour au lendemain, Christian Prévost, Bernard Treton, François Poirier, Alain Weinstein. Bonsoir.